Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Bonsoir, bonjour, bienvenue à la Conspiration des Planches, l'émission critique des arts de la scène de Radio Campus sur 92.1 FM, comme chaque mercredi 19h-19h30, et le jeudi en rediffusion dès 13h30. J'ai à mes côtés Nicolas à la technique, Sophie et Catherine, bonsoir, bonjour.
Bonsoir.
Bonjour.
Ben, salut.
Voilà, voilà. Alors, la petite semaine critique de Bruxelles, beaucoup de créations. Nous irons du côté du National où Joël Pommerat, metteur en scène français ultra connu, met en scène Cendrillon revisité. On ira du côté du KVS où aussi un événement, le réalisateur des Barons, Nabil Ben Yadir, met en scène son premier spectacle, Guantanamo, qu'il a écrit lui-même en co-écriture. On ira du côté du Varia pour une collaboration franco-flamande avec Tristero et Transquinquennal pour L'un d'entre nous. On ira enfin du côté des tanneurs avec Françoise Bloch qui crée une société de services sur le monde du call center. Mais avant de commencer l'émission, un petit clin d'œil, un petit mot à Dieudonné Kabongo, le comédien qui nous a quittés hier et qui est mort sur scène, Catherine Macrel.
Oui, c'est un comédien qu'on avait pu voir encore récemment dans Bas les masques, mis en scène par Laurent Wanson, ou avant ça dans L'Invisible, qui était un solo magnifique sur l'exil. Et puis en fait c'est un comédien né au Katanga, exilé en Belgique, qui s'est fait d'abord connaître comme humoriste, notamment avec le spectacle Méfiez-vous des mouches tsetse, dans un registre donc plutôt stand-up, humour, où il parlait beaucoup du rapport entre colons et colonisés.
C'est ce qu'il y a dans toute son œuvre, hein, dans ce qu'il a pu écrire lui-même, dans ses intérêts.
Oui, ça c'est sûr que c'était un fil rouge. Il a aussi joué au cinéma, il a quand même joué dans un film de Raoul Peck sur Lumumba, dans lequel il interprétait Mobutu. Ça, on peut dire que c'était franchement pas un rôle très drôle. Mm-hmm. Donc il a quand même joué dans tous les registres. C'était, si on en croit les metteurs en scène qui ont travaillé avec lui, quelqu'un plein de générosité dans le travail et dans la vie. C'était un bon vivant, c'était quelqu'un qui avait besoin de ce rapport avec le public, qui n'hésitait pas souvent d'ailleurs à en rajouter. C'était assez difficile de le canaliser apparemment, parce que voilà, c'était quelqu'un de débordant.
Mais sur scène, il existe, hein, il
voilà,
avait du charisme.
Rien que par sa carrure, hein, il était assez imposant. C'était, voilà, c'était comme tu dis, c'était une nature.
Tu as eu des metteurs en scène en ligne, hein, aujourd'hui au téléphone.
Oui, Laurent Wanson, qui me parlait donc de cette générosité. J'ai parlé à Pichi Banda, donc autre artiste d'origine congolaise qui est venu en Belgique parler de son histoire, parler plus ou moins de la même histoire, mais 10 ans après, et dans un registre différent, donc dans un registre plus grave. D'ailleurs, tous les deux avaient un projet au théâtre pour, dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement, pour un petit peu s'interroger sur la situation du Congo aujourd'hui, faire le bilan, se demander si le retard du Congo, c'est pas parce que les Congolais ont tendance à pleurer sur eux-mêmes et est-ce qu'il serait pas temps de se reprendre en main. Voilà des choses comme ça, dans lesquelles Dieudonné Kabongo aurait joué le rôle de Mobutu qui revient de l'au-delà et qui fait le bilan et qui dit « Oui, mais attention, tout n'est pas de ma faute ». Et voilà. Donc, il est mort prématurément sur scène et il est très regretté, si on en croit le déferlement sur, sur Facebook notamment et dans les médias.
Et tu disais justement avant antenne, c'est les comédiens qui manifestent leur...
Beaucoup, apparemment, il a marqué toute une histoire du théâtre belge. Il a joué aussi Othello, par exemple, à Mons. Donc, il a rencontré beaucoup de jeunes et on se rend compte que c'est une figure qui a marqué le théâtre.
Même si on a l'impression qu'on ne l'a pas vu chaque mois sur scène, on va dire. C'est pas des...
Non, il travaillait beaucoup en Afrique aussi. Et puis, il faisait aussi du cinéma. Il a aussi fait de la radio. Donc, c'était un touche-à-tout. Donc,
de la
théâtre.
Musique aussi, je crois, également.
Et de la musique. Donc voilà, petite pensée à Dieudonné Kabongo qui est décédé hier à l'âge de 61 ans, si je ne m'abuse. Après les hommages, entre guillemets, on va sur scène, hein, parce que la scène continue. Et justement, Sophie, toi, tu es partie voir cette autres grands événements Cendrillon de Pomera au Théâtre National.
C'est ça, la nouvelle création de Joël Pomera. Alors on sait que Joël Pomera a fait un travail récurrent sur les contes. Il avait écrit, mis en scène Le Petit Chaperon Rouge et Pinocchio ces dernières années. Ici, voilà, c'est Cendrillon qui se trouve revisité. Et donc, on est dans le conte, hein, les éléments fictionnels, mais qui ont l'air réels malgré tout, dans une forme simple, avec quelque part une morale. Et alors, on regarde un peu les relations humaines et principalement la famille. Et le conte de Cendrillon, bon, ben, je pense que tout le monde le connaît, que ce soit celui de Grimm ou des Grimm ou de Perrault ou de Disney, bien sûr. Et on l'associe souvent, en tout cas pour celui de Disney, hein, à la romance, hein, Cendrillon qui rencontre son prince charmant, et aussi à l'ascension sociale. Ici, ce sont des éléments qui, selon moi, étaient mis un peu moins en évidence par Pomera. Et il a plus traité en fait le deuil qu'un enfant fait d'un parent. Donc ici, en l'occurrence, la mère de Cendrillon. Et aussi les relations dans des familles recomposées. Donc là, c'est tout à fait actuel aussi. Et voilà, donc on a cette jeune fille, Sandra, dont la maman meurt. Et ça, c'est vraiment, autant dans les autres formes du conte ou dans le Disney, bon, ça passe un peu inaperçu, mm-hmm. C'est au début, et puis l'histoire se lance. Ici, ce sera vraiment le thème récurrent et central de la pièce, c'est la relation à cette maman défunte. Et parce que cette petite fille croit entendre les derniers mots de sa mère qui lui demande de lui faire la promesse de ne jamais l'oublier, sinon elle mourra pour de vrai. Et donc, cette petite fille va s'imposer de se souvenir de sa maman très régulièrement avec une montre qui sonne pour surtout ne pas l'oublier. Quoi.
Donc jusque dans la tombe, la mère va culpabiliser sa fille.
Oui, en tout cas, c'est ce que la fille croit parce que, voilà, on nous dit bien, c'était une erreur, voilà les mots qu'elle a entendus et de là, l'histoire commence. Et donc cette fille s'installe avec son père chez sa future belle-mère, hein, on connaît l'histoire, les deux belles-sœurs, la belle-mère tyrannique, alors elle est superbement interprétée par Catherine Mestoussis, mm-hmm. Qui est sans cesse en train de crier, de gueuler sur ce père totalement soumis et qui a donné sa démission finalement. Voilà, elle hurle sur tout le monde. Et très vite s'installe une relation conflictuelle, évidemment, entre Sandra et sa belle-mère. Et,
est-ce que, comme dans le conte, on en fait baver à la petite alors, et est-ce qu'il y a un bal?
Alors, oui, on en fait baver et il y a un bal. De toute façon, il y a des éléments qui reviennent. Mais si on lui en fait baver et qu'il y a cette relation conflictuelle, il y a aussi une forte violence qu'elle s'inflige elle-même, cette petite. Donc, elle n'a plus goût pour rien et toutes les corvées tâches ménagères qu'on lui donne, elle les accepte, elle accepte vraiment sa condition déplorable, et même elle y contribue, donc elle considère que c'est bien pour elle, c'est sa punition pour les quelques minutes où elle a oublié sa maman. Donc il y a une violence psychologique.
Sophie, est-ce que le spectacle est sombre?
Alors c'est sombre, oui, en même temps, bon, c'est un conte, donc on est quand même dans la fantaisie. Après, au niveau sombre, au sens propre, oui, parce que, comme on le sait, Joël Pomera travaille énormément avec les lumières, c'est absolument millimétré, donc il fait souvent très 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 noir, les personnages sont éclairés par une simple petite lumière ténue, c'est juste parfait, et puis il y a... Oui.
C'est du jeune public, alors est-ce que c'est pas traumatique?
Non, alors c'est du jeune public, c'est à partir de 8 ans, mais encore une fois, ça s'adresse aussi aux adultes, aussi bien qu'aux enfants.
Moi, alors, j'ai eu les échos d'un homme de 70 ans qui a adoré.
Voilà, mais je pense que voilà, c'est tout public. Et alors pour les enfants, il y a aussi une préparation qui peut être faite. Voilà, ils ont des dossiers pédagogiques.
Il y a différentes lectures.
Différentes lectures, de toute façon, oui.
Tu avais vu Pinocchio, justement, de Pomera?
C'est ça. Alors là aussi, ben c'est le conte revisité, donc il est mis à la sauce du jour. Le texte est réécrit. Voilà, il y a vraiment une actualisation. Et finalement, on part de quelques éléments centraux du conte pour écrire une histoire qui est à la fois proche et à la fois éloignée. Mm-hmm. Et alors le point commun, évidemment, c'est l'utilisation du son et des lumières très très chères.
Et propre à Pomera. Donc c'est une scène minimaliste.
Voilà, donc le décor matériel est vraiment épuré. On a juste la scène encadrée par des grands panneaux noirs mm-hmm. et translucides et sur lesquels vont être projetées toutes sortes de choses et toutes sortes de lumières. Donc c'est vraiment, vraiment épuré. Et malgré tout, on voyage et c'est vraiment impressionnant la qualité de
Et les highlights de Cendrillon, justement, donc le bal, la chaussure, le prince charmant, qu'est-ce que ça devient?
Alors, ça y participe, ça aussi c'est actualisé, donc il y a effectivement un bal. Là, ce sera aussi le point commun, et qui s'éloigne du conte, le point commun entre Cendrillon et ce prince, c'est que ce prince attend sa maman qui est partie en voyage depuis 10 ans. Mm-hmm. Bon, voilà. Hein,
Et la chaussure, c'est quoi? C'est un iPod
Non, la chaussure est présente, pas exactement comme dans...
Faut pas tout rêver,
comme, non, voilà, il faut garder une surprise, mais c'est joliment mis en scène. Et alors, il faut aussi dire qu'il y a beaucoup d'humour, parce qu'on a une fée qui est absolument... Enfin, elle est savoureuse, quoi. C'est une fée qui fume, qui parle un peu avec l'accent vulgaire, vulgos, parigo, voilà, et qui s'emmerde depuis 300 ans, en fait, et qui n'a pas vraiment de pouvoir magique.
Une fée politiquement incorrecte.
Ouais, ouais, dans un langage très populaire et très... Très sympa,
un petit objet à recommander, donc Cendrillon.
C'est ça, c'est donc Cendrillon au Théâtre National jusqu'au 29 octobre.
Jusqu'au 29, 2011. Et c'est une grande création parce que ça va tourner en Wallonie et c'est aussi coproduit par Le National et La Monnaie.
Avant Ma Chambre Froide cette année, qui est une autre création
de Joël Pommerat.
Ce qui est
intéressant ici, voilà, il est associé et il met en scène sa propre compagnie, hein, Louise Brouillard, et des comédiens belges dont tu citais Mestoussi, qui apparemment...
Et aussi notamment Déborah Rouache qui avait reçu un prix de la critique, mm-hmm, en 2007 pour le meilleur espoir féminin.
Donc voilà, ce Cendrillon à voir jusqu'au 29 au Théâtre National. Catherine, toi tu nous emmènes au KVS pour, non pas au KVS justement, au Varia pardon, pour L'un d'entre nous.
Oui, L'un d'entre nous que moi j'attendais avec impatience parce que j'avais beaucoup aimé Coalition de la même équipe, donc des collectifs Tristero et Transquinquennal. Coalition s'était créée dans une édition précédente du Kunsten où il se passait plein de choses, il y avait plein d'actions. Alors là, c'est tout l'opposé. Il n'y a aucune action puisque les 7 comédiens, si je me souviens bien, sont allongés tout nus dans un grand lit. Tout nu, on imagine, parce que finalement, on ne sait pas ce qu'il y a sous les draps, même si on le saura finalement à la fin. Allez.
Ah, quand même.
Mais voilà, pendant une heure, encore une fois, c'est un spectacle assez court. Il y aura 3 parties. Donc, une première partie qu'on pourrait intituler « En politique ». Toutes les phrases que vont dire les comédiens commencent par « En politique ». Et c'est plein de clichés, d'expressions toutes faites, de pensées sur la politique. Ça, c'est une première partie. Et puis la deuxième partie sur le même modèle, sauf qu'on commence toutes les phrases par « en amour ». Et donc, par exemple, ça donne « en amour, il faut dire la vérité, mais pas toujours toute la vérité ». Et on se rend compte que ce sont en fait des phrases qui peuvent s'appliquer souvent à la politique et à l'amour. Donc voilà, c'est savoureux.
Très musical.
Oui, c'est très rythmé. Et pourtant, tout se joue dans les petits regards des comédiens. Il se passe vraiment, mais vraiment rien, quoi. Et puis la troisième partie que moi, j'ai préférée, là, on passe aux confessions intimes, mais anonymes. Mm-hmm. Donc, toutes les phrases commencent par « L'un d'entre nous a déjà regardé ou aime regarder les films pornographiques, par exemple. » Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on se demande qui a bien pu dire cette phrase. Parce que le metteur en scène, comment il a fait ? Il a demandé à ses comédiens de lui écrire sur du papier certaines confessions sur des thèmes comme ça. Et de manière anonyme, il a compilé tout ça dans ce spectacle. Et donc, même les comédiens ne savent pas qui a dit les phrases qu'eux-mêmes vont dire. Enfin, voilà.
Comment on en ressort ?
On en ressort tout léger. Alors, c'est un spectacle vraiment qui est très ludique, rythmé, pas très profond finalement.
Est-ce qu'on revoit l'amour ou la politique différemment? Moi j'ai lu le texte, c'est drôle de s'arrêter à un moment donné sur les clichés. Tu vois, on doit mettre de l'eau dans son vin, faire des compromis et comme tu dis, ça s'applique.
Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les deux côtés. Par exemple, pour la politique, il y a le côté positif, le côté utopique et puis il y a le côté vraiment réaliste où c'est vrai qu'il y a de la corruption, qu'en politique on peut aller puiser dans la caisse.
Pragmatique, comme on dit
pragmatique,
aujourd'hui.
Voilà.
Et il y a ces deux collectifs, donc un flamand, un francophone, c'est toujours un événement quand chez nous deux collectifs se mettent pour travailler ensemble. Au niveau du jeu, parce qu'ils ont un jeu particulier quand même, transquinquennal et tout un peu...
Oui, est-ce qu'on peut parler de jeu ici? Je ne sais pas parce que c'est vraiment, on est dans un lit et on s'échange des pensées. C'est un ping-pong comme ça, de pensées. Donc voilà, il n'y a pas... Non, moi j'irais...
C'est quand même une curiosité, voir cette comédienne à poil.
C'est une curiosité, vraiment.
Les spectateurs ne rentrent pas dans le lit.
C'est ça que tu as retenu, Nurten.
Par contre, moi je me suis retrouvée impliquée dans le spectacle, je ne vous dirai pas comment.
Ah non. Catherine est peut-être passée dans le lit de Transquinquennal et Tristero. En tout cas, l'un d'entre nous a recommandé au Théâtre Varia.
Recommandé, ça se joue jusqu'à samedi déjà, jusqu'au 15 octobre au Petit Varia. Le numéro de téléphone, c'est le 02 640 82 58.
La conspiration.
De retour dans la conspiration des planches.
Oui, et nous allons directement au KVS pour la création, premier spectacle du réalisateur Nabil Ben Yadir qui nous fait un Guantanamo, Catherine, que tu as vu.
Oui, Guantanamo, qu'il ne faut pas du tout s'attendre à un remake des Barons au théâtre, même si c'est le réalisateur des Barons donc, qui a eu le succès qu'on sait en Belgique. Alors peut-être le seul point commun, c'est qu'on retrouve un des comédiens des Barons, c'est Mourad Zeguendi, qui jouait Mounir dans Les Barons. Il y a deux comédiens sur scène et un musicien. Donc l'autre comédien, c'est Zouzou Benchika, qui est en fait un comédien belge flamand. Même si tout le spectacle en fait est en plus ou moins en français avec un peu d'anglais. Et le bassiste vient de Londres. C'est le bassiste du groupe Asian Dub Foundation.
Yeah.
Voilà. Donc tout ça se retrouve dans une pièce assez bizarre, je trouve. Guantanamo, donc on s'attend à ce que ça parle de Guantanamo. En effet, on se retrouve sur une plage de sable fin avec des transats et les deux comédiens qui arrivent en caleçon, en maillot de bain, quoi, orange, fluo. Alors on pense évidemment plutôt à Alerta Malibu. Ils sont là, ils fument le cigare, ils jouent des congas. C'est une ambiance assez relaxe en fait. Ils boivent des bières.
Crème solaire. Farniente.
Voilà. Mais peu à peu, quand même, on glane quelques informations sur leur histoire. Pourquoi ils se sont retrouvés là, à Guantanamo, par erreur apparemment. Il y en a un qui est hyper pro-américain, qui vient de ces prairies afghanes.
Nourri d'américanisme mais... par DVD au fin fond.
Voilà, qui adore Bob l'éponge, Alerte à Malibu justement, pas plus musulman que ça. Et puis l'autre, par contre, vient lui de Belgique et lui est musulman pratiquant plutôt et surtout très anti-américain. Et donc voilà, on va, c'est plein d'humour la manière dont est racontée leurs deux histoires. Il y a le bassiste qui est en fait qui représente là un GI américain qui est là sur son mirador et en même temps qui joue de la guitare et qui va venir. Alors peu à peu, l'ambiance quand même va un petit peu changer avec ce GI qui va en fait torturer l'un des deux. Voilà, ça c'est la partie qui pour moi est la moins aboutie, même s'il y a des bonnes idées, même si c'est drôle par moments. Et puis dans la deuxième partie, là, on change complètement de style. Tous les trois viennent sur le devant de la scène, il n'y a plus de lumière, ils sont là habillés en civil. Et ils vont parler de ce projet qu'ils ont eu et de la manière dont on peut aborder Guantanamo quand on est un arabe, de plein de choses, du théâtre, de l'engagement. Est-ce que parce qu'on fait cette pièce-là, on peut dire qu'on est engagé? Oui, mais non. Et ça, je trouve que c'est très réussi parce qu'on a l'impression qu'ils sont là, qu'ils improvisent un petit peu, qu'ils parlent avec le public en toute décontraction. Encore une fois avec beaucoup d'humour, surtout par rapport au fait qu'ils sont là dans un théâtre flamand et qu'ils parlent en français, qu'on traduit pour les francophones en insinuant que les flamands parlent beaucoup mieux anglais que les francophones. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont dites en filigrane, qui sont, voilà, moi je trouve que c'est pas mal parce que là on casse complètement les codes du théâtre, on se prend pas au sérieux surtout.
Ce qu'il y a, c'est que la mise en abîme, il y a des effets hyper efficaces au théâtre, difficiles à rater, comme la mise en abîme. Voilà, quand un comédien te dit « Attends, moi, qu'est-ce que je fous là? Je te fous un spectacle. Pourquoi Guantanamo, qu'on n'a même jamais été là? On n'a même pas vu des prisonniers ?» Parce qu'entre-temps, il y a un témoignage vidéo sur un Belge, un Anversois, qui s'est fait choper là-bas, qui ne croyait même pas qu'il allait ressortir de Guantanamo. Et donc voilà, il se pose la question, et ce qui est intéressant aussi, c'est la question d'engagement, et il n'hésite pas à attaquer frontalement le public en disant « Voilà, on est tous un peu le cul dans le beurre, personne n'a été à Guantanamo. » Mmh. Et il y a aussi des questions assez sur le 11 septembre. Et moi, il y a une question qui est venue comme ça, où ils se prennent la tête, les deux comédiens. Il dit « Mais imagine si les deux tours avaient été à Gaza. » Et l'autre lui répond « Mais il n'y a même pas de tour à Gaza. » Ou alors, il lui dit va te mêler de tes tours d'Arabie Saoudite. » Et il dit « Voilà, on s'en fout. » Parce qu'entre ces deux Arabes, hein, deux immigrés, deux enfants d'immigrés nés ici, il y a aussi toute cette rivalité. L'un est un francophone, l'autre est néerlandophone. Donc, il y a plusieurs couches où on se retrouve, il y a quelque chose de succulent dans cette deuxième partie.
C'est vrai, ça parle de beaucoup de choses, sans avoir l'air d'y toucher, avec de l'humour et surtout de manière décomplexée. Mm-hmm. Alors pour une première mise en scène, franchement, c'est pas mal. Hein. Il est venu, il n'a pas essayé de surfer sur ce qu'il avait déjà fait au cinéma. Je trouve que c'est pas mal. Il s'est mis en danger. C'est parfois c'est un peu éparpillé, je trouve, surtout dans la première partie. Mais franchement, on ressort de là et on est content d'avoir vu le spectacle.
Et c'est un spectacle qui va tourner d'ailleurs. Il va aller du côté de Mons, je crois.
Oui, ça va à Mons et puis ça va aussi à Anvers et puis à Rotterdam et à Amsterdam. Mais si vous allez sur le site du KVS, j'imagine vous aurez tous ces détails.
www.kvs.be.
Et ce qui est bien, c'est aussi un autre public. On reconnaît certains publics des barons. Hein. Enfin, c'est une génération d'enfants d'immigrés qui se reconnaît, qui a besoin de ce genre de texte.
C'est vrai que ce qui est bien avec lui, c'est qu'il va attirer une population qui va peut-être pas forcément au théâtre si c'était pas lui qui proposait un spectacle.
Belle mixité, notamment, quand nous, on l'a vu cette soirée-là. Catherine, donc ça, c'est pour Guantanamo, ta mère. Et alors, on va dans quelque chose de tout à fait sérieux aussi. C'est une société de services que tu as vue hier ou avant-hier?
Oui, une société de services mise en scène par Françoise Bloch, ou Bloch, je n'ai jamais su comment prononcer son nom de famille, qui revient avec quelque chose de très similaire à ce qu'elle a fait il y a 2 ans, je pense, qui s'appelait Grow or Go au National, qui avait beaucoup plu, qui avait été nominée au prix de la critique, qui parlait du monde de la consultance en entreprise à partir d'un documentaire de Falk Richter.
Encore lui.
Et l'idée, ça avait été de reproduire sur scène la gestuelle, les situations de ce documentaire. C'était très intéressant de voir cette réalité décalée au théâtre. Et là, elle refait la même chose, mais en prenant l'autre bout de la pyramide, c'est-à-dire les call centers. Donc là, vraiment la main-d'œuvre corvéable à merci, jetable, hyper précaire. Et donc, on pénètre dans les coulisses de ce monde où on a tous eu au téléphone quelqu'un qui essayait de nous vendre un produit Belgacom ou si on a un problème avec je ne sais quel ordinateur portable. Moi, ça m'est arrivé de téléphoner et d'être trimballé d'un service à l'autre et de ne jamais avoir la bonne personne au téléphone. Voilà, on pénètre dans ces coulisses-là et on comprend comment ça marche, que c'est horrible en fait, qu'ils sont là assis devant un ordinateur avec un logiciel qui leur bombarde les appels tout le temps, que leurs pauses sont millimétrées à la seconde, qu'ils sont coachés, que évidemment tout ça est très hypocrite, tout ça est très travaillé. Voilà, c'est une jungle qu'ils doivent faire 12 appels de l'heure et que sur ça, il doit y avoir 30% qui doit se concrétiser en vente. Donc, il y a une pression terrible. On s'applaudit quand il y en a un qui a réussi et en même temps, il y a une compétition et une pression terrible. Voilà, tout ça, on en parle, mais avec beaucoup d'humour, avec une chorégraphie des mouvements que moi, j'aime beaucoup, qu'on retrouve comme dans Grow or Go. Où la gestuelle dit encore plus que les mots du mal-être. Évidemment, on pense à la série de suicides à France Télécom. On voit des entretiens d'un gars qui est complètement déprimé, un autre qui a rendez-vous avec sa DRH pour parler de l'évolution de sa carrière. Et tout ça est très, très, très hypocrite.
Et c'est le nouveau travail à la chaîne, hein?
C'est le nouveau travail à la chaîne. Hein. Et d'ailleurs, alors c'est une autre partie que j'ai beaucoup aimée dans ce spectacle, c'est la vidéo qui, d'habitude au théâtre, je trouve, écrase la scène. Là, pas du tout, c'est très complémentaire et c'est très varié. On y voit notamment donc Charlie Chaplin dans les temps modernes, le travail à la chaîne. Il y a des images comme ça de plans de travail étriqués qui défilent. Et comme les comédiens sont tout près, on a l'impression que ce décor écrase les comédiens. C'est très bien fait.
Surtout que Françoise Bloch fait un travail vraiment de documentaliste, hein, de vraiment un travail intellectuel sur ce dont elle parle. Donc, ce n'est pas des chiffres qu'elle a sortis de nulle part. Il y a cette garantie d'avoir vraiment un travail. Ça reste un spectacle,
ce n'est pas trop didactique non plus.
Pas du tout, parce qu'il y a beaucoup d'humour. Il y a un des comédiens qui a en fait travaillé dans un call center et qui donc ramène cette expérience-là, mais en la détournant, en la décalant. C'est ça qui est très réussi. Et ça parle aussi de la crise aujourd'hui, de tout ce qui est restructuration, délocalisation. Voilà, ça aborde plein de choses en 1h10. Alors, encore un spectacle court, génial. Il faut y aller. Ça dure jusqu'au 15 octobre au Tanner à Bruxelles et puis ensuite, ce sera à Charleroi.
Donc ça, c'est pour une société de service. Juste un petit mot pour dire que le Bruxelles, ça compte, a commencé aujourd'hui, hein, Catherine.
Oui, Bruxelles, ça compte, organisé par la Maison du Comte de Bruxelles. Alors, ça se passe dans tous les recoins de Bruxelles. Ça se passe dans les parcs, ça se passe dans un bus, ça se passe dans les arbres, dans les écoles, dans les bibliothèques. Ça se passe vraiment partout. D'ailleurs, je crois que tout est sur le site internet www.bruxellesacompte.be.
Avec des troisième édition.
C'est la troisième édition. Il y a comme toujours des conteurs connus dans le milieu du conte. Mm-hmm. Bon, voilà, dire les noms ne vous dira pas
Christine
grand-chose.
Adrien. Mais il y a un thème cette année.
C'est le thème du secret. Parfois, ce sera chuchoté. Parfois, ce sera à l'heure du brunch. Parfois, ce sera sous les étoiles, au Rouge Cloître, qui est en fait le QG de cette édition du festival Bruxelles, ça compte. Donc voilà, pour célébrer les mots et pour écouter des histoires d'hier et d'aujourd'hui, parce que le conte, en fait, c'est un genre qui se renouvelle constamment.
Et avec une soirée spéciale, notamment au Rouge Cloître, avec la nuit de l'obscurité, pour faire fi de toute cette pollution lumineuse et redécouvrir la nuit, et peut-être juste utiliser ses oreilles et écouter ces contes qui seront proposés.
Les dates, Nicolas ?
Donc du 12 au 16 octobre, et toutes les informations sur www.bxlsaconte.be.
Ainsi se termine la conspiration des planches. On est parti d'une triste nouvelle de la mort de Dieudonné Kabongo. On est passé directement dans le conte Cendrillon réaménagé. On est parti faire un tour dans un lit pour l'un d'entre nous. On est parti à Guantanamo, hein, la plage et la question de l'engagement. On est parti voir une société de services sur le travail, sur la crise, sur ce qu'on vit dans les coulisses des call centers, et enfin Bruxelles, ça compte, pour écouter les récits, les contes des gens d'hier et d'aujourd'hui sur le secret, un thème quand même fabuleux. Voilà, à la semaine prochaine, au revoir Catherine, au revoir Nico.
Salut, et tous les secrets de cette émission sur le site www.radiocampusbruxelles.org, et n'oubliez pas, l'émission était podcastable sur demandezleprogramme.be et dans le centre de ressources de la Bellone, www.bellone.be. La constelación.